Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Stop Nucléaire, Drôme Ardèche. Ben, comme le mois dernier, nous avons une émission spéciale candidat à l'élection présidentielle. Le mois dernier, nous avons rencontré le représentant de Philippe Poutou, de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Cette semaine, nous rencontrons le représentant de Benoît Hamon, Patrice Ranc, qui est avec nous dans le studio. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Patrick, pardon. Et la représentante de Nathalie Arthaud, Adèle Koft, dans l'émission et qui sera représentée, elle, au téléphone. Avant tout cela, nous avons bien sûr nos billets d'humeur, qui sont des gros billets d'humeur d'ailleurs aujourd'hui. Et Jeanne, tu veux nous parler de Fessenheim.
Voilà. Vous avez certainement entendu ou lu la déclaration de Ségolène Royal à la suite de l'accord d'indemnisation pour la fermeture de la plus vieille centrale de France. 40 ans au compteur. Je la cite, « C'est un choix positif pour l'entreprise. EDF pourra rationaliser ses investissements, les réorienter vers les énergies renouvelables. » Ça fait un peu langue de bois, essayons d'y voir clair.
Oui, alors essayons. Qui décide de l'indemnisation et qui indemnise-t-on ?
L'État contrôle EDF à hauteur de 85,3%. Les actionnaires possèdent donc le restant 14,7%. Et le Conseil constitutionnel a ouvert un droit à indemnisation pour ses actionnaires institutionnels et individuels. Les administrateurs sont au nombre de 18. Parmi ces 18 administrateurs, 6 ont été écartés. Au motif qu'étant administrateurs de l'État, ils sont en plein conflit d'intérêts. Ils auraient intérêt à minorer l'indemnité. Résumons. Les impôts des Français ont permis de payer les centrales nucléaires sans qu'on leur demande leur avis quant à l'opportunité d'une telle énergie. Puis il y a eu ouverture du capital, on leur a expliqué que c'était l'Europe, la modernité, et que l'État ne perdrait pas la main. Sauf que maintenant il faut indemniser les actionnaires privés et l'État n'a plus qu'à se taire et passer à la caisse. C'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé.
Et alors, quel est le montant effectif de cette indemnisation pour fermer Fessenheim ?
Alors, l'indemnisation est de 490 millions d'euros. C'est un beau cadeau, surtout si on a à l'esprit que l'un des deux réacteurs est à l'arrêt. Et il risque de le rester longtemps, car l'ASN s'est rendu compte que la virole de l'échangeur de vapeur a été livrée par Areva, malgré une malfaçon gravissime connue et avec des documents falsifiés. Ces 490 millions d'euros sont destinés à la reconversion des personnels, au démantèlement du site, mais il est prévu également le versement d'une part additionnelle variable reflétant le manque à gagner dû à l'absence de production jusqu'en 2041. L'indemnisation sera déterminée en fonction de l'évolution des prix du marché et de la production des autres réacteurs de 900 MW. Qui a décidé que cette centrale pouvait fonctionner jusqu'à 64 ans et que donc une indemnisation devait être versée durant 25 ans? Le conseil d'administration d'EDF. Vous ne trouvez pas une certaine ressemblance avec les tribunaux arbitraux que la TAFTA et le CETA veulent nous imposer? Et comme si ça n'était pas suffisant, EDF a également subordonné la fermeture de Fessenheim à la prolongation de 3 ans du chantier de l'EPR, au redémarrage du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel en arrêt prolongé à la suite de la chute d'un générateur de vapeur de 450 tonnes dans le bâtiment réacteur.
Dont on a déjà parlé
ici
même.
Ouais. Et à la confirmation par la Commission européenne de la conformité du protocole à la réglementation en matière d'aide d'État. Fessenheim n'est pas prêt de fermer. Si la prolongation nous conduit à une catastrophe, les populations françaises, allemandes et belges en subiront les conséquences. Non, Madame Royal, EDF ne réoriente pas ses investissements vers les renouvelables. Il va dans le mur et nous avec, en s'entêtant à ne penser que nucléaire.
Eh bien, puisque nous venons de parler de fin du nucléaire qui se prolonge, comme on sait le moins que l'on puisse dire, Annie nous a préparé, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, donc c'est moi qui vais lire son billet, mais nous a préparé un petit billet sur le nouveau scénario Négawatt présenté le 25 janvier 2017. Donc ce fameux 25 janvier, l'association Négawatt a présenté son nouveau scénario pour 2017-2050, un scénario renforcé et plus ambitieux qui dessine la trajectoire d'une France 100% renouvelable et neutre en carbone en 2050. Un scénario qui consolide celui de 2011 en actualisant les données, en élargissant les analyses aux bâtiments, à l'agriculture, aux pollutions et en réévaluant l'enjeu climatique. Bref, il s'agit de se fixer une trajectoire où le triptyque bien connu « sobriété, efficacité et énergie renouvelable » reste plus que jamais essentiel. En aucun cas, il ne s'agit d'un scénario de privation. Un scénario de privation, je le relisais pour être sûr de... Pas de retour à la bougie, mais des comportements plus adaptés, des matériaux et matériels plus efficaces. Tous les secteurs de notre vie sont concernés. Le logement, les transports, l'industrie et les matériaux, l'alimentation avec l'agriculture et la forêt, et bien sûr les énergies renouvelables électriques. Une première évidence. Partons de nos besoins réels. Par exemple, avons-nous besoin de suremballage ? Avons-nous besoin de plus d'autoroutes ? La réponse est, de Négawatt en tout cas, c'est non. Deuxième évidence, les terres agricoles doivent être préservées. Pas de culture dédiée pour la bioénergie, mais l'utilisation des résidus de l'agriculture, tout comme l'indispensable valorisation des matières premières par le recyclage et non par exportation. Impossible de résumer en 3 minutes à la radio ce scénario Négawatt dans sa totalité. Aussi, nous vous invitons à aller le consulter sur le site Négawatt, riche en graphiques et modélisations. Et venons-en au devenir du nucléaire. Négawatt prévoit une montée en puissance des énergies renouvelables progressivement jusqu'à 2030, puis leur développement permet enfin de se substituer totalement au nucléaire et aux énergies fossiles. Les nouvelles générations d'éoliennes peuvent aller sur des sites moins ventés, donc moins de concentration. Les panneaux photovoltaïques ont une meilleure rentabilité. Le stockage de ces énergies devient concret. On utilise l'excédent pour faire autre chose, comme de l'hydrogène ou du méthane de synthèse, que l'on peut stocker dans les réseaux de gaz. On parle ainsi d'électrolyse, de méthanation. Ce gaz est important pour remplacer les carburants issus du pétrole. Et le nucléaire dans tout cela ? Il ne représente que 20% de notre consommation d'énergie. Mais inutile de vous en rappeler les risques. 80% du parc nucléaire ayant été mis en service en moins de 10 ans, ce parc ne s'ajuste pas facilement, sa fermeture doit être planifiée. Ainsi, aucun des 58 réacteurs ne se trouve prolongé dans le scénario. Leurs fermetures sont un peu lissées par anticipation de la 4e visite décennale dite VD4 jusqu'à la dernière fermeture projetée en 2035. Par ailleurs, le réacteur EPR de Flamanville, avec tous ses problèmes, n'est pas du tout pris en compte dans le scénario. Bref, vous l'avez compris, pour une France 100% renouvelable, les politiques publiques sont essentielles et en ces temps de campagne présidentielle, chaque candidat peut s'approprier ce scénario. L'effet de serre est cumulatif, tout retard ne se rattrape plus. Si le monde entier adoptait le scénario Négawatt, nous aurions 80% de chances de ne pas dépasser les 200 centigrades de réchauffement. Vite, on s'y met et on ferme les centrales, nous dit Annie. Et on la remercie. Petite chanson. Ah non, nous allons parler de l'agenda. C'est vrai que nous avons changé
notre... l'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un petit changement de
Céline, programme. Tu nous parles de notre agenda de fin d'émission d'habitude.
Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est adapté aux contraintes de nos invités aujourd'hui. Et du coup, on fait l'agenda en début d'émission. Tout d'abord, eh bien, ce samedi 11 mars, date bien connue, hein, ça sera l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Donc à cette occasion, est organisée une chaîne humaine à Valence. Le rendez-vous est donné à 15h au parc Jouvet. Donc cette chaîne humaine partira du parc Jouvet, empruntera le pont Mistral en aller-retour, puis se dirigera vers la mairie. Et donc, ce sera l'occasion de rappeler, commémorer la catastrophe, de rappeler qu'elle dure toujours, et puis de témoigner notre solidarité avec le peuple japonais, et puis bien sûr de passer notre message pour un arrêt du nucléaire. Voilà. Ensuite, dans la même lignée, donc un petit peu dans le même cadre, aura lieu une action le samedi suivant, le 18 mars, à Lyon, une manifestation organisée par le collectif Stop Buget. Et donc, il s'agira de se retrouver entre 13h et 18h sur les ponts situés dans le centre de Lyon, ainsi que sur les berges du Rhône. Donc là encore, les messages seront un petit peu les mêmes que pour notre manifestation de ce samedi à Valence. Donc voilà, commémoration de Fukushima et puis demander l'arrêt du nucléaire. Ensuite, ce mardi 21 mars aura lieu une projection débat du film Munen au navire à Valence à 20h. Voilà, le thème de ce film, donc ça parle des pompiers qui n'ont pas pu intervenir suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, donc ils n'ont pas pu intervenir pour sauver des notamment des personnes à cause de
du
tsunami, voilà,
d'ailleurs.
Pour réagir, etc. Donc les pompiers n'ont pas pu intervenir et donc ils ont ils ont monté un théâtre de papier pour exprimer leurs sentiments par rapport à ça, et donc le film parle de tout ça, et donc cette projection des débat du 21 mars à 20h au navire se fera en présence du réalisateur, d'une délégation de réfugiés de la région de Namier et de sapeurs-pompiers également.
Voilà, et ça voilà. C'est donc appelé par Stop Nucléaire, voilà, et Rech sur la Drôme à l'Ardèche.
Voilà. Ensuite, pour finir sur le mois de mars, nous avons le lundi 27 mars notre réunion mensuelle de Stop Nucléaire en Drôme Ardèche à 18h30 au local de la Frapna, comme chaque mois. Donc vous êtes invités, si vous voulez venir militer avec nous, à nous rejoindre donc, ce 27 mars. Et enfin, le rendez-vous habituel hebdomadaire Place Porte-Neuve à Valence, tous les samedis matins à 11h. Vous pouvez rencontrer nos obstinés qui battent le pavé et sont là pour échanger avec vous sur la question du nucléaire. Voilà pour le mois de mars. Alors, je vais quand même en profiter simplement pour faire un petit message pour le mois d'avril. On aura notre assemblée générale donc de Stop Nucléaire en Drôme Ardèche le samedi 22 avril à 14h à la Maison des Sociétés, et nous aurons la chance de recevoir en fin d'assemblée générale, donc vers 17h, Madame Cézine Topscu, qui est la personne qui a écrit La France nucléaire, voilà, qui est un livre intéressant. Ça sera l'occasion de discuter de tout ça avec elle. Voilà.
Et on peut peut-être rajouter que les impôts, la période des impôts va bientôt approcher, que c'est toujours le moment d'adhérer à Stop Nucléaire dans les conditions prévues au soutien aux associations. Stop Nucléaire se développant, il est important aussi de pouvoir le soutenir financièrement. Eh bien, avant d'aborder notre débat avec les représentants des candidats à la présidentielle, on va d'abord écouter une petite chanson, Rise.
Is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turning mistakes. Thank you.
Eh bien, nous, sur cette fin de chanson toute douce, nous allons reprendre notre débat spécial sur les émissions, sur les élections présidentielles. Aujourd'hui, sont présents, alors, c'est excusé le représentant de M. Lionel Macron parce qu'il a eu un problème familial très important et il s'est engagé à venir le mois prochain. Donc, nous aurons l'occasion d'interroger le candidat de En Marche sur le nucléaire le mois prochain. Aujourd'hui est présent avec nous Patrick Rank du Parti Socialiste, représentant Benoît Hamon. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Voilà, c'est important qu'un parti qui était au gouvernement ces dernières années, et un candidat qui était également au gouvernement ces dernières années, puisse exprimer maintenant sa position sur la politique nucléaire. Je rappelle que l'objet de cette émission, c'est non pas d'interpeller ou d'agresser les candidats, mais c'est bien d'entendre leur programme sur le nucléaire. Donc c'est, même si quelquefois nous pourrions ne pas être d'accord, c'est la position de ces candidats. Petite remarque aussi quand même avant d'attaquer sur le fond du sujet, il nous semble que plus on va vers la droite, moins nous avons de réponses, et donc nous attendons toujours une réponse favorable des représentants de M. François Fillon et de Marine Le Pen qui ne nous ont toujours pas donné signe de vie. Alors, un accord, on a vu le représentant de Yannick Jadot, comment c'est son prénom ?
Yannick
Jadot. Le mois dernier, Yannick Jadot n'est plus candidat. Il y a une fusion de fait avec Benoît Hamon. Déjà au départ, quelles sont les propositions ? Enfin, quel est le nouveau programme de Benoît Hamon sur le nucléaire, en sachant que dans cet accord, il y a eu quand même un certain nombre de points.
Alors sur cet accord, il faut savoir que cet accord rentre dans le cadre des quatre transitions que proposait Benoît Hamon avant l'accord avec Yannick Jadot. Une transition européenne, une transition démocratique, une transition sur le travail et une transition écologique. Et donc l'accord qui a été signé porte sur ces quatre transitions, et donc le débat d'aujourd'hui porte plutôt sur la transition écologique, bien entendu, et en particulier sur le nucléaire. Donc moi, ce que je vous propose, pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui a été acté entre les deux candidats, c'est de repartir de la plateforme qu'ils ont signé tous les deux. Donc sur la partie, on va dire, nucléaire et sur la transition énergétique, l'idée, c'est de mettre en œuvre une sortie progressive et intégrale du nucléaire. Alors quand on dit ça, on n'a pas beaucoup avancé si on ne fixe pas de calendrier. Et donc le calendrier qui est fixé, c'est d'y parvenir à l'horizon d'une génération, soit environ 25 ans. Donc une sortie progressive et intégrale en 25 ans du nucléaire, avec la fermeture des premiers réacteurs durant la mandature qui arrive, c'est-à-dire durant les 5 ans qui arrivent, d'ici 2022, et de passer, avant d'atteindre cet objectif terminal de sortie progressive et intégrale, enfin de sortie intégrale, d'un mix énergétique, donc environ 50% d'énergie nucléaire et des autres énergies, en 2025, c'est-à-dire dans quand même 8 ans. Donc c'est relativement rapide. Une petite addition dans le projet, c'est par rapport au centre d'enfouissement de Bure, enfouissement profond de Bure, auquel Yannick Jadot était très attaché. La fin du projet, bien entendu, pas l'enfouissement. Hein. Et donc l'idée, ça serait de stocker juste sous la surface et de travailler et de mener des études pour trouver d'autres options que ces enfouissements à très grande profondeur.
Et stocker en subsurface, donc effectivement à faible profondeur, ce serait toujours sur le site de Bure ou il y aurait une renégociation pour retrouver un autre lieu ?
C'est à renégocier parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelques problèmes là-bas, sur le site même. Alors là, on a fixé des objectifs, sortie progressive intégrale en 25 ans, avec un mix énergétique dans 8 ans. Par contre, avec quels moyens, quoi ? Parce que si on parle de production d'électricité, il y a aussi la consommation d'électricité. Donc comment on va agir sur le reste ? Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur tout ce qui est sobriété énergétique. Évidemment, l'énergie qui coûte le moins cher et qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. On est bien tous d'accord là-dessus. L'idée étant de sortir aussi des énergies fossiles d'ici 2050. Hein.
Oui, ça c'est le fameux accord COP21.
Voilà, avec une France 100% renouvelable en 2050. On a aussi progressivement la fin des investissements publics dans tout ce qui est énergie polluante. D'accord ? Comme par exemple sur le diesel, etc. Et suppression de toutes les niches fiscales anti-environnementales. Donc ça va bien, c'est bien dans le même processus. La mise en place d'une taxe carbone, qui a été comment dirais-je, qui est un petit peu en jachère pour l'instant, et puis une fiscalité qui serait favorable au transport propre par rapport au transport polluant.
Transport propre, est-ce que vous incluez aussi les véhicules électriques ?
Alors, la difficulté est par rapport aux véhicules électriques, ça va les intégrer dans la mesure où l'électricité qui sera produite sera une électricité propre. On est voilà. D'accord. Donc, l'idée, c'est quand même de faire respecter l'accord sur le climat de Paris, ce qu'on a appelé la COP21, en diminuant donc les émissions de gaz à effet de serre par la suppression de tout ce qui est carbone, etc. Et puis d'intégrer dans chaque politique publique des objectifs climatiques. Alors, donc voilà, c'est le corps de l'accord qu'il y a eu entre le candidat Hamon et l'ex-candidat.
Petite précision, alors justement là-dessus, vous dites fermeture des premiers réacteurs à l'horizon 2022. On voit les difficultés, c'était le billet de Jeanne tout à l'heure sur Fessenheim, difficulté d'ailleurs sur le fait que les actionnaires réclament des indemnisations, donc si on ferme, ces gens-là vont réclamer des indemnisations, ça va coûter une fortune. Donc quelle est la position de Benoît Hamon là-dessus? Un certain nombre de gens disent pas d'indemnisation, les actionnaires se sont fait déjà assez d'argent sur le auparavant pour qu'on ait besoin de les réindemniser en plus. C'est la première question. La deuxième question, c'est combien de réacteurs à cet horizon 2022 ? Il y a 52 réacteurs en France. Dans notre département, la Drôme et Ardèche, on a 14 réacteurs qui nous concernent. Bugey 4, Saint-Alban 2, Cruas 4, Tricastin 4, tous ont dépassé les 30 ans d'âge. Par exemple, dans notre département, qu'est-ce qu'il adviendrait de ces quatre grandes centrales ?
Alors, sur le département de la Drôme et le département de l'Ardèche, donc vous avez dit deux centrales, Cruas et Tricastin.
Et deux autres qui impactent sur nous, Saint-Alban et tout près.
Oui, qui sont pas très loin. Alors effectivement, on ne peut pas nier leur importance dans la production d'électricité. C'est à peu près 10% de la production nationale. Donc c'est quand même important. On est obligé de tenir compte de plusieurs facteurs. Un, on a un prix de l'électricité qui est relativement faible en France, qui a permis le développement de l'énergie électrique et de l'utilisation de l'énergie électrique. On a aussi des salariés qui travaillent dans ces centrales, et on n'a pas encore mis au point toutes les méthodes et méthodologies pour déconstruire les centrales. Parce qu'on dit on va fermer, mais comment on ferme ? Je veux dire, et la déconstruction, on sait que ça va être très 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 long. On parle de dizaines d'années quand même pour déconstruire une centrale. Donc il faut qu'on prenne en compte tout ça pour fixer tout ce qui va être indemnisation, s'il y en a, etc. Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il dit ? Il fixe le cap avec Yannick Jadot. Ils ont dit, nous, on veut aller vers ça. Après, les modalités ne sont pas toutes arrêtées. Je veux dire, ce n'est pas un programme non plus clé en main. Parce qu'on sait qu'on ne sait pas complètement comment on les déconstruit. La durée de vie d'une centrale, moi, je suis incapable de dire si c'est 35, si c'est 40, si c'est 42, etc. Je veux dire, suivant les technologies de construction, je ne suis même pas sûr que tous les experts soient d'accord sur la durée de vie exacte. On sait par contre qu'on va les fermer. Et on s'est fixé un calendrier. Le calendrier, c'est d'ici 5 ans, on aura commencé à fermer. Et d'ici 25 ans, on les aura fermés.
D'accord. Il y a quand même un certain nombre de gens, et pas que dans les anciens nucléaires, y compris la SN, qui est quand même très inquiète. Alors effectivement, les dates en fonction de la date de construction des centrales, les dates de fin peuvent différer en fonction des technologies, ça c'est vrai. Mais par contre, on a vu les problèmes qui se sont posés avec les pièces du Creusot sur les générateurs de vapeur. Est-ce que ce seront les premières centrales fermées, celles-ci, ou réacteurs fermés, parce qu'on peut fermer aussi des réacteurs sur une centrale et pas tous. Là, effectivement, peut-être qu'il y aurait nécessité d'être un peu plus précis. Il n'y a pas eu de débat sur le nucléaire pendant 60 ans. Maintenant qu'on commence à l'aborder, c'est une bonne chose, mais il faudrait l'aborder effectivement maintenant avec des choses un peu plus précises et concrètes, comme on le réclame sur l'économie par exemple.
Je crois que c'est l'état de la centrale ou des centrales qui va déterminer l'ordre de fermeture. On en a une qui est une fermeture qui est sur le feu, qui n'est pas très, très élégant, c'est celle de Fessenheim. On peut estimer que ce sera celle-là qui sera fermée en premier de toute façon. Après, il y a l'âge effectivement de la centrale et il y a les technologies qui ont été utilisées pour les construire. Je veux dire que moi, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire et de la construction et de la déconstruction des centrales nucléaires. Mais je crois que l'objectif, il est fixé et je fais confiance à Benoît Hamon et à son équipe pour maintenir cet objectif. Après, effectivement, il y a des techniciens qui travaillent dessus. Mais nous, on n'est pas techniciens autour de la table et c'est bien difficile de dire comment on déconstruit une centrale. Laquelle on va prendre parce qu'on a tel et tel problème dans celle-là, etc. On n'oublie pas qu'on a quand même quelques incidents assez réguliers dans les centrales, y compris dans les centrales dromardéchoises. Pas des incidents de haut niveau, néanmoins, il y en a régulièrement. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même un danger. sans compter le danger de l'enfouissement des déchets, parce qu'on sait que c'est des déchets qui vont rester des millions d'années. Donc on est bien obligé d'agir. Du coup, le calendrier est fixé. On est à peu près 2025, on aura fini avec les centrales. Mais ça sera combiné à l'accroissement des ressources en énergie renouvelable. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir non plus de se dire on ferme les centrales nucléaires parce qu'elles sont dangereuses, parce que, et puis de rien proposer à la place. C'est pour ça qu'on est dans, on ne peut pas dire du jour au lendemain on les ferme. Non, on les ferme, on remplace la production d'électricité nucléaire par une autre production d'électricité. Et je crois que tout à l'heure dans les textes que vous avez lus, on a vu des pistes, tant sur l'éolien que sur le solaire.
Bah sur les différents scénarios qui existent, voilà. Dans celui de Gavatt. Il nous reste deux petites minutes, assez rapidement. On a vu progressivement une privatisation de l'énergie, et notamment de l'énergie électrique. On sait très bien que les centrales sont des lieux, on l'a vu au Japon, quand c'est privatisé, c'est un grand risque d'accident. Est-ce que vous reviendrez, ce qu'il y a dans le programme de Benoît Hamon, le fait de revenir à un service public de l'énergie, justement en enlevant ces fameux actionnaires? Est-ce que ça a été pensé pour l'instant, ça, ou pas du tout encore?
Alors, ça a été pensé en partie, en ce sens qu'il y aura de toute façon toujours un pilotage national. Mais il faudra aussi quand même qu'il y ait une organisation un petit peu décentralisée, avec des contrats territoriaux et des coopératives citoyennes. Ça veut dire qu'il y aura de toute façon un pilotage national, parce que c'est une affaire qui est trop importante pour être laissée aux mains de gens qui voudraient faire que de l'argent là-dessus. On a par exemple, et on sait très bien, que l'ASN est intervenue auprès de centrales, alors je ne sais pas si c'est celle de Tricastin ou de Cruas, pour dire attention aux sous-traitants. Attention aux sous-traitants. Toute la sécurité qui avait été mise en place au début, quand les centrales ont été ouvertes, on se laisse un petit peu aller. Parce qu'on va...
Mais justement, le fait de dire attention sous-traitants, est-ce que ce ne serait pas justement, lors des changements de tranche, plus de la moitié du personnel de la centrale de Cruas, par exemple, ce sont des travailleurs du secteur privé. Et plus du tout des travailleurs du nucléaire. Enfin, ce sont des travailleurs du nucléaire, mais qui ne sont plus des travailleurs du service public. Est-ce que ce ne serait pas une bonne décision de revenir justement à ce que l'entretien de ces centrales, que ce soit pour les arrêter d'ailleurs ou pour continuer à les faire fonctionner, soit fait par des travailleurs du service public?
Certes. Néanmoins, on est obligé de penser que ces gens-là, l'intérêt, c'est pas... Alors qu'ils dépendent d'une entreprise privée ou d'une entreprise publique, le plus important, c'est qu'ils soient formés pour faire le travail qu'ils vont faire. Parce que les rapports que faisait l'ASN, c'était justement sur le manque de formation de ces gens-là. Et si on veut avoir une sécurité optimale, il faut que les gens soient bien formés.
On conclut par un
pilotage national.
D'accord.
Pilotage national, mais des gens formés pour travailler.
En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'un certain nombre de candidats maintenant à la présidentielle se posent enfin ces problématiques-là. Ouais. Je pense qu'il y aura un gros travail de réflexion à faire avec vous pour aller un peu plus avant. Mais en tout cas, c'est déjà un point positif. Merci Patrick de nous avoir présenté le programme de Benoît Hamon. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de vous en cas de résultat.
On espère tous autour de la table, bien sûr.
On aura l'occasion de vous réinterpeller, là, pour le coup, un peu plus précisément. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
Une petite chanson.
The people had the right to control their lives and to control their destinies.
You can beat me or jail me, or even kill me. But I'm not going to be what you want me to be.
Freedom, gotta stay free.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Ou pire, s'amourachent et se fréquentent sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font, perchés sur le mic on observe. Et ça les énerve, tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle. Et qu'on rentre dans leur rang, si possible à grands coups de paix.
Tu sais, je vis de petits riens, leur gueule de petits saints. Veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donnent la patte et la ferme. Sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Voilà, est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non, désolé, y'a pas de gaine sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4
battre avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à quatre pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais. Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ils se battent trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disaient trop de zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde, un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Eh bien, sur cette ère de hip-hop, nous sommes là par téléphone avec Adèle Kopft pour Nathalie Arthaud. Est-ce que tu m'entends bien, Adèle ?
Oui, oui, bonjour.
Eh bien, parfait. Moi, j'entends bien aussi, donc c'est parfait. Alors, présentation du programme de Nathalie Arthaud sur le nucléaire. Petite chose, quand on lit bien les documents de la candidate, on voit peu de choses concernant l'industrie nucléaire. Est-ce que tu peux, au départ déjà, nous dire un peu quelles sont les propositions de Nathalie Arthaud sur cette industrie électrique que nous considérons comme dangereuse ?
Écoutez, nous, c'est vrai qu'on choisit d'axer notre campagne sur les intérêts des travailleurs et sur la dénonciation du capitalisme. Et je crois que dans le domaine du nucléaire, comme dans tous les autres domaines de l'économie, nous, on fait pas confiance aux capitalistes, à la concurrence, à la loi du marché, à toute cette logique du profit pour assurer la sécurité des travailleurs qui sont déjà les premiers concernés parce que c'est eux qui sont qui travaillent dans les centrales nucléaires et puis de toute la population. Nous, notre axe de campagne, c'est plutôt de dénoncer l'irresponsabilité des actionnaires, des capitalistes, que ce soit parce qu'ils licencient, ils créent du chômage, mais également dans l'industrie nucléaire.
Mais alors, peut-on considérer que le nucléaire est un sujet comme plein d'autres, ce qui peut expliquer effectivement cette position, où il y a quand même un certain nombre de gens, et pas spécialement d'ailleurs que dans les antinucléaires, y compris à l'ASN aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à s'inquiéter sur la sécurité de ces centrales. Or, le capitalisme ne sera pas vaincu, mais on peut par contre avoir un Fukushima chez nous. Est-ce que vous avez quand même une position là-dessus, qui serait de dire que par exemple, il serait peut-être bien de passer à une autre forme de production d'énergie, même sous le système capitaliste ?
Moi, vous savez, je pense que les capitalistes, ils nous ont déjà démontré à multiples reprises qu'ils sont capables de faire des catastrophes dans plein de domaines. Que ce soit, je veux dire, bien sûr, Fukushima, ça montre que c'est dramatique de laisser l'énergie nucléaire entre les mains d'intérêts privés, parce que ils respectent même pas les recommandations des experts sur les niveaux des digues. Mais en France, c'est pareil. Hein. EDF, il y a eu quand même aussi quelque chose d'approchant en 99 quand il y a eu la tempête, une centrale nucléaire en Gironde où il y a une digue qui a été submergée. Pareil, des recommandations qui recommandaient des digues plus élevées, mais qui n'avaient pas été suivies. Alors, toute mauvaise gestion, où on cherche à faire des économies, où on cherche à rentabiliser, où on augmente la sous-traitance, ben oui, c'est inquiétant. Maintenant, moi, dans le cadre du capitalisme, je veux dire, d'autres formes d'énergie posent aussi des problèmes. Regardez l'Allemagne qui choisit de sortir du nucléaire. Conséquence, ils développent les centrales thermiques énormément. Beaucoup d'énergie au charbon, au pétrole. Le charbon fait aussi des milliers de morts chaque année dans les mines en Chine ou ailleurs. Je crois que toutes les formes d'énergie ont des avantages, des inconvénients. Bien sûr, le nucléaire, ça fait extrêmement peur parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes. Mais je suis pas sûre qu'il y ait de solution miracle dans le domaine de l'énergie tant qu'on laisse les décisions entre les mains de gens qui sont irresponsables. Ils se posent pas le problème, en fait, des intérêts de la collectivité. Ils se posent le problème de leur capital, combien ils rapportent, etc. Et moi, ça me fait peur, et dans plein de domaines.
Mais vous allez vous présenter aux législatives aussi, Luc Ouvrière, je pense, si j'ai bien compris, c'est vous d'ailleurs qui allez être candidate sur la Drôme.
Oui, je suis candidate sur la première circonscription.
Donc là, de fait, alors je veux bien entendre le discours général de Nathalie Arthaud sur effectivement le fait que le capitalisme ne réglera pas le problème. Quand on descend un petit peu aux législatives, aux municipales, donc sur le terrain, les gens qui habitent autour des centrales, eux, s'inquiètent. On sait par exemple, quand on habite dans zone de 10 à 20 km, en cas d'accident, on ne sera jamais remboursé parce que les assurances ne fonctionnent pas, etc. Beaucoup de gens s'inquiètent pour le fait...
Les salariés s'inquiètent aussi.
Les salariés s'inquiètent également sur leur avenir. Et le fait de renvoyer la réflexion à un peu tard, est-ce que c'est pas vous mettre en incapacité de répondre justement à ces préoccupations? Je donne un exemple. Les salariés du nucléaire aujourd'hui sont favorables au nucléaire parce que c'est leur métier et ils n'ont pas envie de perdre leur boulot. Le fait de penser et de réfléchir à l'arrêt de ces centrales, c'est aussi réfléchir à leur futur travail. Non pas à leur licenciement, mais à leur futur travail. Est-ce que vous avez déjà, vous, quand même un peu réfléchi à ça? Par exemple, je dirais, s'occuper des déchets, contrôler les centrales que l'on a fermées, etc. C'est énormément d'emplois, tout ça.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, sur l'emploi en général, moi je crois qu'il faut se poser les problèmes à l'échelle de la société, de répartir le travail utile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ces choix d'énergie, c'est pas la population qui les fait, c'est pas ceux qui produisent les richesses, c'est pas les travailleurs. Nous, on n'a à aucun moment, en tant que salarié, notre mot à dire. Et moi, je pense que, effectivement, je suis pour changer la société. Je pense qu'il n'y a pas de solution dans le capitalisme. Maintenant, je pense que, sur tous ces sujets-là, je fais confiance aussi à la mobilisation des salariés, à la mobilisation de la population. Effectivement, il faudrait qu'on impose... déjà, un premier truc, c'est beaucoup plus de transparence. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est l'opacité dans tout ça, comme dans tout un tas de domaines. C'est-à-dire que il y a des incidents, on nous dit qu'ils sont pas graves, ils cherchent toujours à minimiser, que ce soit EDF, que ce soit Areva, que ce soit l'autorité de sûreté nucléaire, parce que on vit dans un pays où l'État, il a favorisé quand même cette filière nucléaire et tous les industriels qui vont avec, y compris les industriels du béton, hein, des bouillies, des compagnies, c'est des marchés, toute cette filière nucléaire. Donc, l'État favorise cette filière depuis bien longtemps, parce que c'est très juteux, et on ne peut pas faire confiance non plus à l'État, à ses instituts, pour nous protéger. Par contre, je pense que les travailleurs qui sont au cœur du problème, ils sont aux premières loges, ils ont probablement plein de choses à raconter sur les pressions qu'ils subissent pour aller plus vite, sur les conditions de travail qui se dégradent, et ça, c'est inquiétant quand on voit la course. Là, EDF, ils viennent quand même d'annoncer en début d'année qu'ils veulent supprimer des milliers d'emplois. Bon,
et notamment dans l'industrie nucléaire.
Qu'est-ce que ça veut dire quand ils suppriment des emplois? Ça veut dire que c'est plus des salariés EDF qui vont faire les boulots les plus difficiles et les plus dangereux. C'est déjà le cas depuis longtemps d'ailleurs, ils sous-traitent. Après Fukushima, ils avaient commencé à discuter de limiter justement la cascade de sous-traitance, mais moi ça me choque déjà qu'il y ait cette sous-traitance, parce que quand ils sous-traitent EDF, c'est forcément pour que ça leur coûte moins cher. Donc ça veut dire des travailleurs moins bien payés, ils sont moins bien suivis médicalement, hein, quand même tous ceux qu'on appelle les nomades du nucléaire, qui vont de centrale en centrale pour assurer la maintenance, c'est eux visiblement. Il y a une spécialiste là de la santé au travail, là, Anité Beaumonier, elle dit que c'est eux qui prennent 80% des radiations et donc 80% des risques de développer plus tard des maladies professionnelles. Bah, tout ça, c'est choquant parce que on prend des gens précaires, on prend des gens qu'on va mal suivre. Ben, moi, je pense que là, il y a des combats à mener pour que les conditions de travail et donc de sécurité soient meilleures. Alors, et moi, j'ai plus confiance. Moi, ce qui me rassure presque, c'est la conscience professionnelle des salariés du nucléaire, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, de tous ces gens-là qui, quand même, au quotidien, se battent pour que les conditions de sécurité soient respectées, pour face aux pressions de la hiérarchie qui veut que ça aille toujours plus vite, toujours plus rentable. Donc, il y a quand même une résistance qui se fait au niveau des salariés et qui essayent de faire correctement leur boulot, ne serait-ce que pour se protéger eux-mêmes et pour protéger aussi, bien sûr, tous les riverains.
Alors, dans ces combats, il y a quand même aussi des combats. Alors, il y a les combats des salariés, bien entendu, mais il y a aussi les combats des populations. Il nous reste deux petites minutes. Il y a un des combats aujourd'hui qui est un peu emblématique, c'est celui de l'enfouissement des déchets. Et là, on peut pas attendre parce que les décisions sont prises. Donc, il y a une population qui se bat, qui occupe les terrains, etc., en refusant l'enfouissement. Est-ce que Nathalie Arthaud apporte son soutien justement à cette bataille contre l'enfouissement des déchets ? Parce que là, qu'on maintienne ou qu'on arrête le nucléaire, de toute façon, les déchets, c'est une problématique qui existera même après une révolution socialiste.
Bien sûr. Bah, là aussi, c'est révélateur de l'irresponsabilité de ceux qui gèrent toute cette filière nucléaire depuis des décennies. C'est que eux, bien sûr que je comprends les gens et qu'on est solidaire des gens qui se battent parce que ils sentent bien que ceux qui gèrent ces déchets, ceux qui gèrent toute cette filière nucléaire, ils se posent pas le problème de l'intérêt général. Ils sont le nez rivé sur leur courbe de profit. Les déchets, tac, on les enfouit, ça me coûte ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans? Oui, c'est inquiétant. Après, ce que je constate aussi, c'est que depuis que EDF a été ouvert au capital, privatisé, mettons, et cette logique, les moyens mis pour la recherche ont été baissés aussi. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas de solution miracle sur les déchets, je vais pas vous dire ça, évidemment, mais là aussi, il faudrait mettre des moyens pour la recherche, il faudrait aussi supprimer toute cette concurrence, ce secret, même des chercheurs qui bossent pour Areva, ils peuvent pas forcément communiquer tout ce qu'ils savent à des chercheurs d'EDF, et puis à l'échelle mondiale, il y a des tas de choses qu'il faudrait mettre en commun pour qu'on puisse vraiment réfléchir et avoir toutes les cartes en main. Mais ça... effectivement, ça veut dire rompre radicalement avec cette loi du profit. Et tant qu'on sera dans cette loi du profit, moi, je pense que on s'en sortira pas et que on peut pas leur faire confiance pour régler que ce soit le problème des déchets et que ce soit le problème de la gestion de l'énergie sans que ça nous pète à la figure.
Eh bien, merci beaucoup, Adèle, d'avoir un peu exposé ce programme de Nathalie Arthaud. On fera passer votre soutien aux habitants de Bure.
Merci, en tout cas, de m'avoir invité.
Eh bien, c'est avec plaisir. Et puis, je pense qu'effectivement, on relancera des débats comme ça avec les partis politiques, on l'espère, dans le courant de l'année, au moins sur un ou deux sujets plus précis. Merci beaucoup encore et bonne journée.
Merci. Au revoir.
Eh bien, oui, je faisais signe à mon technicien, tout va bien. Ce débat va se prolonger le mois prochain, puisque nous aurons Emmanuel Macron qui sera présent. Nous allons insister pour que les partis représentants, en tout cas les représentants de la droite, François Fillon et Marine Le Pen, soient présents également pour ce débat. Je rappelle que l'objectif pour nous de ce débat, c'est de permettre aux candidats de développer leur programme, même si nous ne partageons pas, nous en tant que Stop Nucléaire, bien sûr, toutes leurs propositions. Mais bon, aujourd'hui, et ça c'est très important pour nous, c'est que ce débat se développe, soit 100 ans sans débat, ça suffisait. Il est important que cette campagne présidentielle soit sous le signe de la discussion, en tout cas sur le nucléaire. Cette émission était présentée par Jean-Pierre, notre technicien, par Céline qui a fait l'agenda et qui nous prépare tout le travail auparavant, par Jeanne et son billet, par Annie qui n'était pas là et par moi-même Dominique. Et je vous rappelle que notre prochaine émission est le 3 avril 2017, toujours à la même heure, midi 15. Vous pouvez nous joindre sur notre répondeur, le 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit. Et bien, écoutez, nous vous laissons avec notre dernière chanson, dont je cherche le titre parce que notre programme ayant été modifié. C'est Sastanakwam Tina Riwen. Et c'est parti.
Tiniri sastana kam dukti fuotu midiwan le tasini tile da shakwa inayan warani sinjayi tisana tabar
سكوز تران درش نوان ديني ريس استان اقام ديك تفوت مي ديوان ليتا سند لدى الشكوى اينا ينورني سنجي بسانة تابا سكوز تران درش نوان